Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes, en DAB+, et sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, j'anime l'émission que vous écoutez, qui se nomme « Votre santé, un trésor ». J'ai encore le grand plaisir aujourd'hui de recevoir une fois encore le professeur Pierre Marais, gynécologue et obstétricien, qui nous a déjà entretenu de l'endométriose et de l'intimité de l'examen gynécologique. Pierre Marès a été chef de service de gynécologie et d'obstétrique au CHU de Nîmes et président de la CME, la commission médicale d'établissement du CHU de Nîmes. Il pratique toujours au sein de ce service et a de nombreuses autres activités, notamment pédagogiques et universitaires. C'est aujourd'hui en tant que spécialiste gynécologique et des maladies sexuellement transmissibles que nous recevons Pierre Marès et nous la remercions. La dénomination papillomavirus humain, PVH, ou virus du papillome humain, VPH, en anglais human papillomavirus HPV, s'applique à différents virus à ADN de la famille des papillomaviridae, susceptibles d'infecter l'humain. On en connaît environ 200 génotypes différents. Certains se transmettent par contact cutané, ils infectent la peau, d'autres potentiellement plus dangereux sont sexuellement transmissibles. C'est bien évidemment ceci qui nous intéresse aujourd'hui. Pierre Marès, pouvez-vous nous en dire plus sur ces virus très contagieux chez l'humain ?
Alors d'abord bonjour et merci de votre invitation parce que c'est un sujet passionnant. Vous m'auriez invité il y a 10 ans, je vous aurais dit on n'en connaissait que 120 papillomavirus sous-groupe. Vous voyez, on est déjà vos chiffres sont autour de 200-220. Donc vous voyez que ça s'améliore. Je ne sais pas si on peut dire que ça s'améliore. Simplement, on connaît de mieux en mieux parce que les techniques de détection sont plus précises, plus fines et permettent de dépister ces virus. La particularité du papillomavirus, ben vous l'avez déjà bien décrit, c'est qu'en fait, il est présent un peu partout. Et ce qu'on a découvert sur les 30 dernières années, c'est que ce papillomavirus est un cofacteur de différents cancers. Et pourquoi les gynécologues obstétriciens ont été sensibilisés ? C'est parce qu'on l'a découvert initialement comme un cofacteur du cancer du col de l'utérus. Ça a été la première remarque dans cette démarche. Et depuis une dizaine d'années, on s'est rendu compte qu'au-delà du cancer du col de l'utérus chez la femme, ce papillomavirus intervient également sur des cancers du périnée, à savoir au niveau de la vulve, mais aussi au niveau de l'anus. Mais l'anus chez les femmes et chez les hommes. Sommes tous les deux des êtres humains, hommes et femmes. Mmh. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc ces cancers au niveau anal deviennent très prépondérants par rapport à d'autres facteurs qu'on a évoqués avant. Et troisième groupe de cancers concernés, au moins les plus connus, c'est les cancers ORL, où on se rend compte que les cancers de la zone de la gorge, du pharynx, du larynx, sont plus liés quasiment maintenant à des contaminations par le papillomavirus, presque supérieure à l'utilisation ou au risque lié au tabac.
Oui, mais d'ailleurs, il y a eu un comédien célèbre d'Hollywood, justement, qui a eu, qui a eu justement un cancer ORL dû à une pratique sexuelle particulière qui était due à ce genre de virus.
Donc, si vous voulez, la démarche qui a été évoquée pour aller au fond de votre question, en fait, si c'est ce qu'il y a derrière, c'est que on s'est rendu compte que c'était un facteur prépondérant dans la survenue du cancer.
Ça, c'est intéressant, cancer et virus.
Alors, c'est la première fois, si vous voulez, qu'on trouve un lien avec un facteur sur lequel on peut agir.
Ouais.
Pour le cancer jusqu'à maintenant, on peut parler des cancers liés à des problèmes chromosomiques, à des problèmes historiques, à des problèmes... Mais on n'a pas d'outils pour se battre contre la survenue d'un cancer en première intention. Donc, quand on a découvert ceci, on s'est rendu compte que si on pouvait bloquer le papillomavirus, eh bien, on allait réduire certainement la survenue du cancer. Au départ, c'était essentiellement le cancer du col de l'utérus, de façon importante. Et ça, ce domaine-là a été développé beaucoup plus vite par les pays anglo-saxons, que ce soit États-Unis, Australie, et les pays du nord de l'Europe un peu que dans l'Europe, je dirais, du sud.
Voilà. Alors, vous le disiez, on le disait il y a quelques années, seules les jeunes filles semblaient être concernées par ce problème. Et aujourd'hui, aussi bien les filles que les garçons le sont. Alors, durant mon installation, j'ai eu les premiers garçons, qui étaient des garçons homosexuels, qui venaient se faire vacciner, justement pour ce problème, et c'était les tout premiers. Donc maintenant, il y a part égale. Expliquez-nous cette part égale entre filles et garçons.
Si vous voulez, c'est que la particularité de la sexualité actuellement pratiquée fait que les garçons peuvent avoir des cancers anaux, peuvent avoir des cancers ORL, vous venez de l'évoquer. Et donc, la protection, au départ, avait été de dire il faut vacciner les filles, puisque, comme je vous l'ai dit, l'idée de départ était de réduire les risques de cancer du col utérin. Je rappelle que les cancers du col utérin, et je reviens pour redire ce qu'on avait évoqué lors d'une première émission sur le dépistage et l'importance du dépistage, c'est-à-dire qu'il y a la prévention primaire qui peut être le vaccin, la prévention secondaire qui est le dépistage avec le frottis. Et les deux sont nécessaires. Donc ce n'est pas parce qu'on fait un vaccin qu'on ne fait plus le dépistage.
Il faut faire les deux, il faut toujours faire le dépistage.
Et donc ça, c'est important. Et donc on s'était dit, si on trouve un vaccin contre ce virus, eh bien, on va pouvoir éradiquer le cancer du col de l'utérus. Et ce qui se passe, c'est que dans les pays où la vaccination a été développée de façon importante, les pays les plus concernés, c'est les pays d'Europe du Nord et l'Australie, eh bien, pratiquement, il n'y a plus de lésions condylomateuses, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le papillomavirus, alors ça, c'est important pour les gens qui nous écoutent, c'est pas parce qu'on a un papillomavirus positif qu'on va faire un cancer. Oui. Il y a, comme vous l'avez évoqué, 200 sous-groupes. Dans ces sous-groupes, il y en a certains qui sont à risque de cancer et d'autres qui sont, on appelle ça bénins, mais qui sont des sources de condylomes, de choses comme qui se traitent. Mais par exemple, en Australie, pratiquement, ils ont éradiqué à 95% les condylomes et ils espèrent d'ici 15 ans quasiment réduire à presque rien, les cancers du col utérin. Je rappelle que pour la France, on a à peu près 3200 cancers du col utérin dépistés chaque année, avec 1100 décès liés au cancer du col de l'utérus.
Très bien. Alors, comment exactement les humains s'infectent-ils par ces virus ? Et quel est l'âge moyen de contamination ?
Alors, vous soulevez un problème qui demanderait beaucoup de temps pour être dans les détails.
Je suis là pour soulever des problèmes, mais vous avez peu de temps pour y répondre.
Pour y répondre, voilà, oui. C'est ce que j'allais vous dire, ça devient un peu complexe. Alors, la première contamination du papilloma, ça peut être par les rapports sexuels. Mais ce n'est pas parce qu'on a une contamination ou qu'on devient positif au papilloma qu'on a un risque de cancer du col. Ça montre simplement qu'on a une sexualité qui se déroule. Première chose. Deuxième étape, il faut savoir que on peut transférer la contamination par des contacts manuels, puisque le papilloma, il est sur les doigts partout.
Oui, partout sur
donc,
le
on peut se contaminer à ce niveau, avec les mains. Donc, les attouchements peuvent être des sources de contamination. Et ensuite, il faut savoir qu'il peut y avoir une contamination lors de l'accouchement, si la femme est porteuse, la mère est porteuse de papilloma, et qu'il peut y avoir des contaminations ORL à ce niveau-là. Donc, on peut être à tout moment concerné par le papillomavirus. Ce qui est important, c'est si on peut faire et mettre en place le vaccin. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont contre le vaccin, mais on peut en reparler si vous le souhaitez. Et la deuxième chose, c'est de faire toujours cette surveillance par le dépistage, par le frottis.
Alors, je vais vous donner quelques chiffres que j'ai relevés. C'est environ 4500 nouveaux cas de cancer par an en France, col de l'utérus, vulve, vagin, anus et oropharynx. Les femmes sont les plus touchées par les cancers induits par différentes souches de papillomavirus. Mais les infections à VPH concernent également les hommes avec environ 1750 nouveaux cas de cancer VPH induits chaque année en France, anus, pénis et plus fréquemment oropharynx, avec un risque d'infection particulièrement élevé chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Alors, ces chiffres sont-ils justes ou en avez-vous d'autres? Quelle est la prévalence de ces infections chez les femmes, chez les hommes et chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes?
Alors, sur la fréquence des cancers, quand on prend l'ensemble des cancers, comme vous venez de l'évoquer, sur la France, on est à presque 6400 cas de cancer diagnostiqués par an. Donc, si vous voulez, ce chiffre augmente chaque année de façon importante. Alors, le point important, c'est que c'est pour ça qu'on a mis en place une vaccination. Pourquoi ? Parce que ce vaccin ne contient pas du tout de particules virales.
Ça, c'est très important. Dire que on ne peut pas s'infecter avec le vaccin, parce que les gens ont peur d'être infectés avec le vaccin.
Alors, je sais qu'il y en a qui ont discuté sur les risques du vecteur qui apporte la molécule du vaccin, mais le vaccin lui-même, c'est un Canada Dry de la forme du virus. Donc ça, c'est important. Il n'y a pas de particules virales. Et donc, on s'immunise, si vous voulez, on leurre notre système immunitaire avec une particule qui mime la forme de l'HPV. Mais qui n'est pas le virus. Et c'est pour ça qu'on est passé du vaccin bivalent, où il n'y avait que deux particules, au vaccin quadrivalent, où il y en avait quatre, au vaccin nonavalent actuellement, parce qu'on s'est rendu compte qu'au départ, il y avait deux sous-groupes qui étaient le 16 et le 18, et on s'est rendu compte qu'avec les problèmes de migration entre l'Afrique, l'Europe, etc., d'autres sous-groupes pouvaient être contaminants à risque cancérigène.
Parce que, le vaccin s'améliore.
Donc le vaccin s'est amélioré, et c'est pour ça qu'on a proposé ces vaccinations chez les jeunes avec deux injections entre 11 et 14 ans, parce que l'immunité répond beaucoup mieux à cet âge-là.
Garçons et filles.
Garçons et filles.
C'est ce
et c'est remboursé.
Dire. C'est
oui,
garçons
c'est
et filles. Parce qu'avant, c'était que filles. Maintenant, c'est garçons et filles. Tout garçon de 11 ans, toute fille de 11 ans, tout garçon de 14 ans, toute fille de 11 ans doit avoir une dose de vaccin pour la santé publique actuellement. Et la médecine, c'est la santé publique et on doit respecter les vaccinations légales.
Eh bien, ça me paraît important parce que, j'allais dire, on a vu disparaître la poliomyélite, on a vu grâce au vaccin. Oui. Et le vaccin contre l'HPV est un vaccin sécurisé et il n'y a pas de risque d'augmentation. Maintenant, on a 15 ans de surveillance sur des séries de plus de 100 000 personnes. C'était 100 000 femmes au départ, puisque c'était surtout ça, où on avait dit, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'augmentation de sclérose en plaques, d'hépatite, etc., de Guillain-Barré plutôt. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il n'y a aucun risque d'augmentation de ces maladies auto-immunes.
Alors, en dehors du vaccin, existe-t-il un traitement efficace contre ces virus et quel est-il aussi bien pour les filles que pour les garçons ?
Alors, des traitements en dehors du vaccin, on n'a pas grand-chose sinon de détruire les lésions. C'est-à-dire que, par exemple, le vaccin va protéger contre l'apparition des condylomes, la survenue des cancers. L'intérêt, c'est que s'il y a des lésions de type condylome, ce qu'on appelle des verrues en fait, eh bien, on peut les traiter. Alors aujourd'hui, il faut les traiter le plus tôt possible avec des techniques telles que le laser ou des produits locaux avec des sprays qui permettent de... Je ne vais pas faire de la publicité pour les laboratoires.
Non,
mais
on
si
pas
vous
le
voulez,
droit, on n'a pas le droit.
Voilà, donc si vous voulez, on peut utiliser... Il faut en parler avec son médecin. On a aujourd'hui des outils pour éviter que ça devienne embêtant parce que... En dehors du cancer, c'est vrai que ces lésions sont très gênantes parce qu'elles demandent des consultations, des suivis, etc.
Oui, mais cette émission est une émission d'information, ce n'est pas une émission de consultation. Bien évidemment, s'il y a des problèmes particuliers, il faut que les gens, même si c'est difficile actuellement, se retournent et consultent leur médecin, généraliste, leur médecin traitant ou leur médecin spécialiste. Donc, vous l'avez dit que ces infections sont dangereuses parce qu'elles induisent des cancers et ces cancers sont aussi très dangereux, aussi bien, répétons-le, pour les filles que pour les garçons, parce qu'il y a une dizaine d'années que les filles on s'occupait que des filles. Actuellement, il faut bien que les garçons soient protégés et soient vaccinés. Je vous rappelle que vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+, ou sur radioallianceplus.fr. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Pierre Marès, qui nous parle des infections à papillomavirus humain, et je vous propose une pause musicale en écoutant Claude Debussy, Arabesque numéro 1. Thank you. Nous sommes donc avec Pierre Marès et qui nous parle aujourd'hui de la vaccination contre les infections papillomavirus humains. Alors ma question c'est, nous pouvons nous poser la question à propos de ces infections lorsque les futures mamans sont infectées. Y a-t-il un risque pour le fœtus ou pour le bébé qui va naître hein?
Alors, c'est une question qui s'est posée. En fait, lorsque les femmes sont positives et qu'elles sont stabilisées, il n'y a pas de raison particulière de stresser par rapport à leur grossesse. Par contre, si elles ont des lésions visibles, vaginales, etc., en général, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est de faire un traitement préalable avant l'accouchement. Il est rare qu'on soit amené à discuter d'une césarienne en raison de condylomes florides au niveau du vagin qui empêcheraient un accouchement par voie basse dans des conditions normales, puisque le risque serait que l'enfant soit contaminé, puisqu'il pourrait absorber dans les sécrétions lors de son passage au niveau vaginal, dans la filière génitale, des particules virales. Donc, globalement, c'est quelque chose qui actuellement est bien cadré et les patientes peuvent en parler avec leur équipe soignante. En général, il n'y a pas de souci et il y a des protocoles bien organisés à ce niveau-là. Ce qu'on peut espérer, c'est que si garçons et filles sont vaccinés, ce problème ne se posera même plus d'ici 10 ans ou 12 ans.
Voilà, c'est ce qu'il faut dire, c'est que ce vaccin permettrait peut-être l'éradication ou peut-être pas l'éradication, mais la diminution très importante de ce virus et donc des conséquences de ce virus. Si vous vouliez me rappeler deux chiffres, ces chiffres, c'était quoi, dites-moi.
Je voulais vous rappeler que si ce vaccin fonctionne, pour les Australiens, ils ont prévu, entre guillemets, d'éradiquer, c'est pas le bon mot, mais de faire disparaître à 95% le cancer du col de l'utérus.
90%. Donc c'est extraordinaire.
Je ne sais pas si vous entendez, parce que ça, comme je dis, moi souvent, s'il y avait un vaccin contre je sais pas, un cancer de la prostate ou je ne sais pas quoi, je serais très intéressé pour me faire vacciner.
Il faudrait que tous les gens se fassent vacciner.
Voilà. Mais par contre, si vous voulez, cette démarche-là, c'est parce que maintenant, ça fera presque 40 ans que ce vaccin existe en Australie ou en Suède, et il voit petit à petit disparaître ce qu'on évoquait, les condylomes, et la fréquence des cancers ou des lésions graves du col de l'utérus.
Donc l'expérience australienne montre que ce cancer donc, est anodin, c'est-à-dire qu'il
on peut essayer de le prévenir dans 90% des cas, c'est quand même assez extraordinaire d'avoir ce message, parce qu'on ne l'a pas tous les jours. La deuxième information qui est importante, c'est que la vaccination peut être prolongée jusqu'aux 14-19 ans, mais là, il faut faire 3 injections. Et lorsqu'il s'agit de personnes de sexe masculin ayant des rapports avec un sexe masculin, on accepte la vaccination jusqu'à l'âge de 26 ans. Donc ça, c'est important. Et alors, la troisième information que je voulais vous donner, c'est qu'on est en train de réfléchir, pour vous montrer l'efficacité, de traiter, peut-être par un vaccin, des patientes qui ont eu une lésion avec une anomalie cellulaire du col utérin, pour lesquelles on a dû faire une conisation, oui, en proposant une vaccination tardive.
Une conisation.
Une conisation, c'est, si vous imaginez un petit bout de tissu, imaginez une pochette inversée, et on enlève le circuit autour de la pochette qui correspond au col, et on enlève comme un petit cône, c'est pour ça qu'on parle de conisation.
Oui. Alors, quelles sont les préventions qui existent et qui peuvent être mises en place contre cette infection, aussi bien chez les filles et maintenant chez les garçons, bon, à part la vaccination?
Alors, à part la vaccination...
Parce que si on dit aux jeunes l'abstinence, oui, je mais pense vous, que ouais, ça ne marchera pas forcément...
Ça ne va pas être le plus efficace, a priori.
Le plus efficace, oui.
Ouais, on peut pas en discuter, mais on peut le dire, mais ce n'est certainement pas la meilleure solution. La meilleure des solutions, c'est un, le vaccin, quand même, il faut le rappeler. La deuxième, c'est une prévention, c'est l'utilisation du préservatif. Parce que le préservatif, vous allez entendre deux discours complètement opposés. Ceux qui vous disent « ça ne sert à rien », ceux qui vous disent « c'est utile ». Alors, essayons d'être... avec un peu de recul, comme on l'a dit l'autre fois, quelle est la réalité? Eh bien, c'est que le papillomavirus est un virus de très petite taille. Donc, il peut traverser les pores des préservatifs dans la plupart des cas. Donc, premier message, il faut utiliser des préservatifs de qualité aux normes NF et pas des préservatifs achetés dans des magasins entre deux. La deuxième chose, c'est qu'il faut utiliser ces préservatifs à tous les rapports, mais que ce n'est pas efficace à 100%. Ça va être efficace à 70%, ça on le sait parce qu'il y a eu des enquêtes. Ça réduit le risque de contamination quand l'un des deux est positif par rapport à l'HPV, le temps que le traitement est permis de stabiliser cette lésion.
Et moi, quand j'ai fait mon service militaire, c'était le début de l'épidémie du sida. Ah oui. Donc on disait aux garçons, puisqu'on était là pour les enseigner, surtout, tout rapport, chaque rapport, quel qu'il soit, buccal, non buccal, normal, préservatif, et même des fois on insistait en disant mettez deux préservatifs. Ouais, ouais. Il faut mettre des fois deux préservatifs comme ça.
C'est l'intérêt. Alors c'est vrai, ça pour le VIH, et vous avez raison de le souligner, c'est un peu moins vrai pour l'HPV. C'est pour ça qu'il faut que l'information soit clairement donnée.
C'est pour ça que vous êtes là.
Mais c'est important que les gens entendent que ça protège. Et qu'il vaut mieux essayer de protéger sa partenaire avec l'utilisation d'un préservatif, même si ce n'est pas du 100%.
Alors, existe-t-il des particularismes pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes avec cette pathologie ?
Les particularités, c'est qu'on a des risques de cancer buccaux ou anaux qui peuvent être plus importants. Et c'est pour ça qu'on a accepté de proposer la vaccination en France chez les hommes ayant des rapports avec d'autres hommes jusqu'à l'âge de 26 ans. Mmh. Et ça, c'est quand même un point important, c'est-à-dire que tous ces éléments sont pris en charge. Et comme je vous ai dit, mais ça, c'est dans le cadre d'études et de recherches, on commence à se poser la question de savoir si après une colonisation chez une femme, on ne pourrait pas les vacciner.
Là, je reviens là-dessus, mais quand on dit des chiffres, ce n'est pas nos opinions, l'opinion du médecin.
Ah non,
ce sont des études, c'est-à-dire qu'on ne donne pas une opinion personnelle, on donne des opinions d'études, une opinion scientifique. Et c'est ce qui est important, évidemment, ici, c'est vous le référent de ces chiffres et de ces études. Donc voilà. Bon, ben, il me reste bien évidemment à vous remercier, à remercier encore Pierre Marès.
Est-ce que je peux juste dire un petit mot sur la vaccination ?
Allez-y encore.
Il faut rappeler que tout est pris en charge, mais qu'en France, en 2022, on a à peine 42% des femmes qui ont eu un vaccin et seulement 13% des garçons.
Ah, mais
donc le message est important.
Le problème de la vaccination des garçons, moi je l'ai vécu. Dans ma pratique, c'était niet. D'abord, les garçons ne voulaient pas. Les parents ont dit pourquoi les garçons ? Déjà, les filles, c'était difficile, donc il faut se faire vacciner. C'est un vaccin qui est anodin. C'est deux vaccins. C'est quelque chose qui doit être courant actuellement, surtout pour éviter les risques que cela peut avoir. Alors, il me reste bien évidemment à remercier encore Pierre Marès pour ce qu'il nous a apporté de son savoir et de son expérience durant cette émission et pour ses nombreuses explications sur cette pathologie aussi bien féminine que masculine que sont les infections à papillomavirus humain. Merci encore infiniment à vous, Pierre Marès.
Merci à vous.
Mais avant de nous quitter, ma rubrique de fin d'émission des livres sur la santé aujourd'hui, infections à papillomavirus, état des connaissances pratiques et prévention vaccinale, par Joseph
Mansonego,
vous connaissez
Mansonego, oui.
Édition Springel. Il a beaucoup écrit, je l'ai beaucoup retrouvé. Traité des infections et pathologies génitales à papillomavirus, Joseph Mansonego, collectif Springel. Les infections sexuellement transmissibles, comme ne vous en a jamais parlé, par Bazagana, Ramon, Gomez, Anaïs, aux éditions Jouvence. Peut-être une lecture différente. Et puis le site vaccinationinfoservice.fr, qu'il faut que vous consultiez pour voir que tout ce qu'on vous a dit est une réalité et qu'il faut le suivre. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de votre Santé un Trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt. Je reste votre bien dévoué.
Vous êtes sur Radio Alliance Plus.